Je vous renvoie à l'étude de M. Lorité sur pourquoi la métaphysique, sur ce qu'il dit sur l'acte. Je ne peux pas renvoyer au séminaire parce que ce n'est pas encore édité, alors je ne peux pas. Mais autrement, je renverrai au séminaire parce que c'est les études dernières. Surtout sur ce qu'il peut dire sur les expressions, c'est intéressant, dunamis, entelekeia, ergon, energeia. Alors, simplement pour que ceux qui ne savent pas, c'est quand même intéressant de voir que Aristote a de fait inventé deux mots, l'un par rapport à la substance, l'autre par rapport à l'acte. Je vous mets ici les accents pour qu'une autre fois je ne les mette plus. Entelekeia. Alors, M. Lorité dit ceci. Ce terme entéléchi, vous voyez bien que entéléchi n'est qu'une traduction brutale, n'est-ce pas? Alors, c'est net. Sur l'étymologie de ce terme, Chantraine affirme, terme philosophique créé par Aristote, achèvement, réalisation, par opposition à dunamis, puissant. C'est sûr qu'il y a une opposition entre les deux. Alors, ce terme entéléchi nous place dans un problème plus délicat. Il paraît être un néologisme frappé par Aristote, tout comme celui du toti en einai. C'est très vrai. Ce sont les deux néologismes qu'Aristote a inventés. Si Aristote les a inventés, c'est parce que je crois qu'il avait besoin de thématiser quelque chose en le nommant. C'est pour ça qu'on le nomme. Nommer, c'est thématiser, c'est l'objectiver, le rendre objectif. Alors, le toti en einai, ça doit vous devenir extrêmement familier. Hein, ça. Tout de suite, vous devez en rêver. Alors, le toti en einai, c'est pour permettre de voir la distance qui existe entre l'ousia aristotélicienne et l'eidos platonicienne. Alors faites un petit triangle et réfléchissez beaucoup sur ce triangle et vous trouverez. C'est ça qui est montré. Hein. Le toti en einai va être de fait lié à l'eidos. Tout eidos implique le toti en einai. L'ousia implique le toti en einai. Il y a un terme commun entre les deux. Alors que l'eidos, la forme, n'est pas l'ousia. Tandis que l'ousia est au tiennainai et la forme est au tiennainai. Vous voyez, le terme commun, c'est au fond inventer un métaxu, inventer un intermédiaire. Et inventer un intermédiaire permet de montrer la distance qui existe entre les deux. C'est ça le propre. Et c'est l'astuce d'Aristote, de montrer la distance qui existe entre la forme et l'ousia. Et pour montrer la distance qui existe entre la forme et l'ousia, c'est de montrer que la forme est première dans un certain domaine, le domaine artistique, le domaine de l'intelligibilité, et que l'ousia est première dans le domaine de l'être, de ce qui est. Alors, il y a le terme ici. Étant donné que l'induction que nous avons vu hier, de l'acte, est très différente de l'induction de la substance. J'espère que vous l'avez remarqué. C'est pas tout à fait la même chose. Pourquoi ? Parce qu'on est dans deux interrogations différentes. C'est l'interrogation, nous y reviendrons sur l'interrogation, puisque ça pose un petit problème. C'est l'interrogation qui commande l'induction. C'est normal. Hein ? Parce que c'est l'induction, elle est téléguidée par l'intelligence. C'est l'intelligence qui forme l'induction. La réalité n'est pas téléguidée par l'intelligence, mais l'intelligence, en interrogeant, se met dans un axe. C'est comme quand vous voulez regarder un tableau ou une architecture dans le bon sens ou dans le mauvais sens, à contre-jour ou dans la lumière du soleil. Vous êtes conscient de faire ça. Si vous ne l'êtes pas, quelqu'un est là pour vous dire espèce d'imbécile, regarde un peu et essaie de comprendre. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas voir à contre-jour. Eh bien, l'interrogation, c'est ça, c'est mon intelligence qui s'oriente. Elle s'oriente dans un sens, dans le sens de la lumière. Si j'interroge le TST, c'est quelque chose de très particulier. Si j'interroge autrement en demandant en quoi, c'est autre chose. Si j'interroge pour savoir d'où l'origine, c'est autre chose. Vous voyez, c'est très important de voir ces perspectives différentes de l'intelligence qui veut détecter dans la réalité quelque chose de différent. Je n'ai pas le pouvoir d'une intuition absolue. Et ça, vous le voyez même dans les réalités artistiques, puisque vous vous mettez dans des perspectives différentes pour regarder le même tableau, pour regarder la même œuvre architecturale. Ça prouve que vous n'arrivez pas à l'épuiser d'un seul coup. Si vous l'épuisez d'un seul coup, vous n'auriez qu'une seule solution. Dieu ne change pas de situation pour regarder une œuvre d'art. Tandis que vous êtes obligé. Vous changez de situation pour regarder une œuvre d'art. Parce que vous ne saisissez pas de façon exhaustive. On saisit partiellement. Si on saisit partiellement, ça prouve qu'il y a une abstraction. Et c'est parce qu'il y a une abstraction qu'on saisit dans ces différentes perspectives. Donc, il faut essayer de comprendre alors la place de Entelekeia comparativement au Toti Enainai. Ce qui n'est pas comme ordre. Alors, on pourrait dire, est-ce que le Entelekeia est vu pour essayer de comprendre la dynamis et le propre de l'énergeia? Ce que je dirais, c'est volontiers. Vous voyez, la dynamis, l'analogue de la dynamis, c'est l'aïdos. L'analogue de l'énergeia, c'est ousia. C'est ça que nous cherchons. Nous cherchons ça. Puis un troisième terme qui apparaît, qu'Aristote unit facilement à cela, c'est le point de vue d'Ergon. En effet, Ergon est lié. Il y en a quatre qui apparaissent là. C'est normal, puisque c'est une induction synthétique. Alors, je ne sais pas, uniquement trois. Mais il y a quelque chose donc à essayer de saisir. Alors, regardons d'abord Entelekeia. Je crois que c'est nécessaire d'essayer de comprendre. D'un côté, je lis ce qui est dit ici, parce que comme ça, je vous y renvoie. Page 193. D'un côté, il présente une certaine difficulté par le fait qu'Aristote ne se donne pas la peine de l'expliquer d'une manière exhaustive. C'est bien évident. Aristote a dû gloser en disant ça. Dans la pratique, Aristote montre une certaine insouciance dans l'emploi de ce terme et il les utilise assez indifféremment. C'est le père Leblanc qui dit ça. Je n'en suis pas absolument sûr. Vous voyez, mais ça, c'est à voir. Je ne crois pas qu'il emploie indifféremment absolument. Cette difficulté avait été déjà soulignée par Molore et reprise sur le plan, et ainsi de suite, sur des commentateurs. D'autre part, et ceci doit intéresser tout particulièrement l'historien, le fait de frapper un nouveau terme montre qu'il voulait mettre en relief quelque chose que les termes habituels ne signifiaient pas encore d'une manière adéquate. C'est sûr, on n'invente pas un mot pour le plaisir d'en inventer, à moins d'avoir une petite maladie particulière, n'est-ce pas ? Mais autrement, ça ne se fait pas. On utilise les mots qui existent et puis on essaie de s'en servir le mieux possible. Or, il est très étonnant, à notre avis, qu'un auteur propose un nouveau terme et qu'il ne sache pas l'employer clairement et distinctement, n'arrivant pas à le différencier du terme déjà connu et utilisé, Energeia. Ça, c'est sûr. C'est évident, c'est très simple. Alors, d'une manière générale, on pourrait diviser en 5 grandes catégories, à la suite de Montavon, les opinions formulées sur le sens du terme Entelekeia. Il se rapporte au mouvement continuel, ça c'est vrai. Il s'identifie à celui d'Energeia. Il signifie la perfection de l'achèvement. Il s'assimile à Eidos. Il a le sens de force qui porte en elle sa fin. C'est très vrai que je peux trouver ces sens-là dans Aristote. Donc, c'est quand je vois que Entelekeia est utilisé d'une manière multiple et diverse. Le terme comme tel n'est pas utilisé avant Aristote. Dans l'expression aristotélicienne, nous trouvons deux aspects, entélès et ekein. C'est bien évident qu'il y a ekein. Et entélès. C'est intéressant de voir comment c'est forgé, c'est ça qui est intéressant. Il y a une forge particulière par laquelle on va unir des mots divers et les identifier. Aujourd'hui, on mettrait un trait d'union, vous voyez, ça ferait mieux. Cette distinction avait été faite par Porphyre, Alexandre Simplicius Themistius, qui décomposait le terme en tou entelos, suno ken, ou to entelekes ekein. Alors, je crois que nous pouvons dire l'ayance dans la fin. En définitive, ça, je pourrais dire que c'est l'ayance dans la fin. Autrement dit, entelekeia, à la différence de energeia, va exprimer un état. Un état dynamique. C'est l'état de celui qui, de fait, est lié à sa fin. Je crois qu'en définitive, c'est ça. Il est lié à sa fin. Si vous êtes lié à une fin, vous atteignez donc votre achèvement. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? C'est d'être lié à sa fin. D'être entelekeia. Vous êtes dans un état de bonheur. Vous êtes donc en acte. Donc, energeia est présent dans entelekeia. Il faut bien voir ça. Chaque fois qu'il y a entelekeia, il y a energeia. Donc, je peux très bien mettre energeia. C'est pour ça que ce n'est pas du tout une faute d'employer energeia de temps en temps en entelekeia. Mais entelekeia exprime autre chose, signifie autre chose que energeia. Parce que energeia peut d'une certaine manière se distinguer, se séparer d'entelekeia. Il y a quelque chose de plus séparé d'energeia que entelekeia. Tous les deux sont liés à dunamis. Vous voyez ? Il y a une dépendance. La dunamis en acte. La puissance en acte, elle est entelekeia. Parce que entelekeia est dans la dynamis. Elle. Et la dynamis, elle est pros. Elle est vers l'accomplissement. Alors, ces deux choses que nous avions vues de l'acte, qui impliquent dans et qui impliquent vers, on peut peut-être essayer de les exprimer l'un pour l'autre, ou bien l'un séparément de l'autre. Energeia exprime quelque chose qui est plus purifié de la manière d'atteindre le terme. Ici, je suis dans l'état, donc je suis encore dans la manière. Je dirais dans le mode, dans le pos. C'est d'une certaine manière le comment de l'energeia. Comment l'energeia se réalise-t-elle? Elle se réalise de telle ou telle manière. Dans le monde physique, c'est la kinésis. Dans le monde physique, c'est le mouvement. Dans le monde animal, dans le monde des vivants, c'est l'opération vitale. Dans le monde de l'esprit, c'est la béatitude. Vous voyez, j'ai des paliers différents et je suis toujours en phase d'energeia. Energeia pourra se distinguer de entelekeia, mais energeia est présent dans entelekeia. Alors, vous voyez qu'on a un procédé analogue. C'est ça qui m'intéresse ici, pour essayer de découvrir pourquoi Aristote se prend-il ce terme, invente-t-il ce terme. Le totiainainai, c'est beaucoup plus facile à comprendre. C'est de montrer toute la distance qui existe entre le domaine de l'intelligibilité, ce que l'intelligence est capable de saisir de l'ousia, ce que l'intelligence saisit de l'aïdos. L'intelligibilité, puisque de fait, la définition définit, le contenu de la définition, c'est le totiainainam. C'est le contenu de la définition. On ne dira jamais que le contenu de la définition, au sens rigoureux, c'est l'ousia comme ousia. Je ne peux pas définir l'ousia comme principe. Tandis que je définis totiainainain. Je suis donc dans le domaine d'une intelligibilité qui peut se déterminer. Vous voyez? Et donc, le totiainainain est forgé pour montrer le domaine de l'intelligibilité au sens tout à fait propre. et par là mieux discerner la distance qui existe entre la forme et l'ousia, on comprend très bien, chez Platon, l'intelligibilité et l'être ne font qu'un. Pas de distinction entre les deux. Donc, la forme, c'est l'ousia. Aristote distingue le domaine de la pensée et le domaine du réel. Pour Aristote, il n'y a pas adéquation entre le to noen et le to einein. Le to noen et le to einein ne sont identiques que dans l'être premier. Et c'est ce qui caractérise l'être premier. C'est ce qui caractérise le nous divin. Le nous divin, lui, est identique avec l'être. Mais en dehors de l'être premier, c'est distinct. Il faut donc arriver à montrer la distance qui existe entre le to einein, l'être, l'ousia, c'est l'être, et le point de vue de ce qui est pensé, ce qui est directement pensé, le to noen. Je dis ça pour que vous retrouviez des expressions bien connues, n'est-ce pas ? Le to noen, le to einein. La distance qui existe entre les deux. Qu'est-ce qui montre le mieux la distance ? C'est le to tien einein. Ici, le problème est tout à fait différent. Le problème consiste à dépasser la dunamis. Puisqu'on commence par la dunamis. Tout le problème consiste à dépasser la dunamis. Comment arriver à dépasser la dunamis ? C'est de montrer que l'acte est au-delà de la dunamis. Or, la dunamis, si je prends la puissance chez les vivants, puisque c'est là où la puissance est la plus nette, je vois que la puissance s'actue dans l'opération. Et cette opération vitale, elle est présente et immanente dans la dunamis, mais elle n'est pas l'acte. Elle est donc entelekeia. Je montre par le fait même la distance qui existe entre la dunamis qui s'actue et l'acte proprement dit, qui est le terme, telos. Je vous ai dit, c'est ça qui est très difficile à saisir dans l'acte. C'est que l'acte est à la fois immanent et transcendant. Et il faut même dire, il est transcendant et immanent. Pour saisir l'immanence de l'acte, entelekeia, pour saisir la transcendance de l'acte, energeia. Alors, vous voyez, c'est plus du tout la même chose. Hein. C'est plus du tout la même. C'est pas le même. La même question, là on est dans l'ordre de l'intelligibilité et de l'être. Ici, on dirait qu'on est dans l'ordre du dynamisme et de l'acte. Il s'agit de comprendre que le dynamisme n'est pas l'acte. L'acte commande tout dynamisme. Il produit le dynamisme, produit l'exercice. Là on est au niveau de l'exercice. Le dynamisme de la chose. Vous voyez, c'est un état dans l'exercice. C'est une manière d'être liée à la fin. Tandis que energeia exprime une limpidité du terme. Telos, ce qui termine, ce qui achève, ce qui est la fin. Là, c'est la fin immanente. Et quand on parle de téléonomie, on est en face de entelekeia. On n'est pas en face de la fin qui transcende. Oui, donc il faut arriver à bien saisir ces deux aspects que je crois sont inventés par Aristote pour que nous comprenions mieux sa découverte comparativement à Platon. Platon parle bien de la finalité, mais il parle d'une finalité immanente. Alors il s'agit de la stigmatiser, cette finalité immanente. Entelekeia. C'est une finalité immanente. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas ce qui finalise. Ce n'est pas ce qui, de fait, donne la signification dernière à la réalité. Energeia. Réfléchissez au moins là-dessus. Parce que c'est très difficile à interpréter. Vous voyez, et c'est très vrai, je crois qu'on discutera toujours. Parce que si vous regardez tous les textes, c'est intéressant à le faire. L'enquête a été faite. Monsieur Lorité a regardé tous les textes, et Montavon avant. Ils n'aboutissent pas tout à fait à la même conclusion.
Oui, parce qu'il fallait laisser chercher eux-mêmes. Hein. Et c'est vrai qu'il y a là un sujet intéressant à voir. C'est difficile, c'est pas commode du tout, de voir la différence dans Aristote entre énergéien et télékéien. Il faut savoir au moins qu'il y a un problème. Hein. N'ayez pas d'idée originale là-dessus. Sachez qu'il y a un problème et que Aristote emploie, comme on dit dans une lecture courante, comme dit le père Leblanc, vous pouvez très bien vous placer derrière le père Leblanc, c'est quand même un homme intelligent, parce qu'il a fait une très bonne étude sur les parties des animaux, une très bonne étude sur le jugement d'Aristote. Comme dit le père Leblanc, oh, c'est difficile de discerner. Tandis que toti eneinain, ah ça, il n'y a pas moyen. Sauf si on est tricot. Alors à ce moment-là, on peut confondre. Mais autrement, il n'y a pas moyen de distinguer, il n'y a pas moyen de confondre. Tandis que les deux, là, on peut arriver à les confondre. C'est très vrai. C'est pas étonnant. Parce que c'est tout à fait autre chose, le maniement de l'acte et le maniement de l'ousia. C'est tout à fait autre chose. Vous voyez ? L'ousia est fondamental, l'acte est ultime. Donc il assume tout le reste. Il assume tout le reste. Alors s'il assume tout le reste, je peux m'arrêter entre deux. Et entre deux, entelekeia. Alors, je termine ces quelques remarques, et puis en terminant, je reviendrai sur la question de l'induction, une question qui a été posée et qui est très importante à bien voir. Les livres, donc, Kappa et Lambda de la métaphysique, montrent l'utilisation de cette philosophie de l'acte et de la puissance. Deux niveaux différents. Et je crois que c'est en effet très important de bien voir Kappa et Lambda comme l'illustration du livre Theta. Alors, je vous lisais ce petit texte hier, je le relis. Kappa 9065B57. Et alors, si vous êtes astucieux, vous voyez qu'Aristote emploie successivement entelekeia et energeia, ce qui est très amusant. Il y a ce qui est en acte seulement, energeia, ce qui est en puissance, taux d'une amène, et ce qui est en puissance et en acte. Alors on dirait ce qui est en puissance et en acte devrait mettre une telekeia, là. Hein? Si, c'est juste. Et cela, soit dans la substance, soit dans la quantité, soit dans les autres catégories. Ce qui est en puissance et ce qui est en téléchie étant distinct dans chaque genre. J'appelle mouvement, kinesis, l'acte, energeia, de ce qui est en puissance en tant que tel. Et vous voyez que dans la physique, Aristote emploie entelekeia. Et ici, il y a energeia. Je vous laisse à réfléchir. Voici comment Aristote justifie cette définition. Quand le constructible, en tant que nous le disons être tel, est en acte, il se construit de même, donc il se construit, il est en acte, de même pour l'apprentissage, la guérison. Le fait d'être mu arrive donc lorsque l'entéléchie comme tel existe. Le fait d'être mu, donc il est dans. Là, c'est très clair. Mais ni avant ni après, car l'entéléchie de l'être en puissance, est le mouvement. Avant, il avait dit energeia. Vous voyez, c'est là où Père Leblanc a un petit peu raison. De fait, dans deux textes qui ne sont pas très éloignés, qui sont même tout proches l'un de l'autre, puisque c'est 1065B5 et l'autre 1065B17. Donc ce n'est pas deux livres différents, c'est tout simplement deux textes différents. Et vous avez successivement, par rapport à la kinésis, ces deux aspects. Quand le constructible, en tant que nous le disons être tel, est en acte, il se construit. De même pour l'apprentissage et la guérison. Le fait d'être mu arrive donc lorsque l'entéléchie comme telle existe, mais ni avant ni après, car l'entéléchie de l'être en puissance est le mouvement, lorsque par l'entéléchie l'être est en acte, on energé, non en tant que lui-même, mais en tant que mobile. Aristote précise. Par en tant que tel, j'entends ici l'airain et en puissance statue. Mais pourtant, ce n'est pas l'entéléchie de l'airain en tant qu'airain qui est mouvement. car l'être de l'airain et l'être d'une certaine puissance ne sont pas la même chose, puisque s'il était identique selon le logos, l'antéléchie de l'airain serait un certain mouvement. C'est très intéressant à voir ça. Donc, il y a ce livre-là. Il y a dans le livre lambda, hein, je vous renvoie simplement là, pour montrer l'application des modes différents de l'acte et de la puissance. Dans le livre lambda, l'utilisation de la distinction de l'être en acte et de l'être en puissance se retrouve sous plusieurs formes. D'abord, lorsqu'Aristote rappelle que l'être se dit de deux façons, que la génération procède du non-être selon la puissance, que tous les êtres ont d'une certaine manière les mêmes causes, que la forme se rattache à l'être, et que ce qui est premier en entéléchie est cause de toute chose. Puis lorsqu'il parle de la cause efficiente première, et qu'il rappelle l'opinion des théologiens et de quelques philosophes. Après avoir énoncé l'opinion de Platon, Aristote conclut: ainsi, regarder la puissance comme antérieure à l'acte, c'est avoir raison en un sens et tort en un autre. Que l'acte soit antérieur, c'est ce qu'atteste Anaxagore, car pour lui, le « nous », c'est en acte. De même, Empédocle et Leucippe. Alors, ça, c'est la fameuse question que je n'ai pas vue avec vous, parce qu'on ne pouvait pas tout voir, dans le livre Theta, après avoir fait la distinction de l'être en acte et d'être en puissance, Aristote montre l'antériorité de l'être en acte sur l'être en puissance. Ce qui est très important. Ce qui est très important, puisque c'est là où, de fait, on peut dire que pour Aristote, il nous montre le propre de la causalité finale. L'être en acte est antérieur à l'acte en puissance. Donc l'être en puissance dépend d'être en acte. Alors je reviens un instant, si vous voulez, je renvoie à d'autres textes, c'est pas la peine de les voir ici, ceux qui veulent les regarder pourront les regarder, c'est dans le De Anima entre autres. Je reviens à une question plus importante qui a été posée. Pourquoi ces deux inductions, l'induction du livre Theta comme l'induction du livre Zeta, toutes les deux sont commandées par l'interrogation du TST? Or, l'interrogation du TST, normalement, nous fait découvrir la cause selon la forme. Comment se fait-il qu'Aristote, lorsqu'il est dans le livre Theta, ça c'est le livre Zeta, on comprend très bien. Le livre Zeta recherche le TST de l'ousia. Et l'ousia, elle est cause selon la forme. Ça, ça va très très bien. Ce qui est très ennuyeux, ça ne colle plus. Aristote a dû avoir une distraction. Il y a une distraction pieuse, il a dû avoir une distraction. Il pose encore l'interrogation du TST lorsqu'il s'agit de la découverte de l'énergeia. Or, l'énergeia est télos. Si l'énergeia est télos, il le dit ça. Si l'énergeia est télos, mais il devrait pas, il devrait interroger en disant, mais quelle est l'interrogation qui nous conduit vers le télos? Et en vue de quoi? Ceci, on le retrouve en éthique. Donc Aristote connaît bien ça. Le premier livre de l'éthique, le livre premier de l'éthique, nous montre admirablement l'induction de la fin. Et on trouve bien l'interrogation en vue de quoi. Donc là, je suis tout à fait à mon aise. En éthique, je suis tout à fait à mon aise. L'éthique découvre, je vous ai dit, il faut tout le temps mettre en parallèle la philosophie première et l'éthique. Si vous voulez vraiment progresser en métaphysique, en philosophie première, il faut tout le temps mettre en parallèle la démarche de l'éthique et la démarche de la philosophie première. Les deux sont toujours les deux extrêmes de ma vie intellectuelle. Alors, pour ne pas tomber dans la cérébralisation, ce qui arrive très très facilement, vous savez, quand je suis en philosophie première, je perds pied. Hein. Assez facilement. On tombe alors dans une idéalisation. Pour ne pas perdre pied, il faut toujours garder un contact avec l'éthique. Tout le temps. C'est les deux aspects extrêmes. très très important. Eh bien, ici, on le voit très très bien, si vous voulez, que l'éthique commence par la grande interrogation en vue de quoi ? En vue de quoi ? L'opération humaine. Qu'est-ce qui commande toute l'opération humaine ? Quelle est la fin de toute l'opération humaine ? Donc, c'est la finalité. Et qu'est-ce qu'Aristote découvre ? Il découvre le bonheur. Il découvre le bonheur comme fin ultime, comme fin dernière, comme fin prise d'une façon absolue, alors qu'il découvre d'autres opérations qui sont en vue d'eux. Autre chose, sont des moyens. Donc il fait la distinction entre la fin et le moyen. Une distinction très très fondamentale, très importante, analogue à l'éthique. Une distinction qui, pour l'éthique, est analogue à la distinction substance et qualité en philosophie première. Toute la philosophie première repose sur la découverte de l'ousia qui est distincte de la qualité. L'une est principe, l'autre n'est pas principe. La qualité n'est pas principe et l'ousia est principe. Eh bien, toute l'éthique est commandée par la distinction du bien fin ultime et du bien moyen. Je peux donc dire que le moyen est à l'éthique ce que la qualité est à la philosophie première. Je peux donc dire que l'ousia est à la philosophie première ce que la fin ultime est à l'éthique. Là, nous sommes en face de quelque chose qui est radical et qui commande toute la philosophie première et toute l'éthique. Vous voyez donc que la grande interrogation en métaphysique, c'est le tiesti. Et la grande interrogation en éthique, c'est le en vue de quoi ? Alors, je crois que ceci, c'est capital. Parce que, toujours, une première interrogation en commande une seconde. Mais la seconde interrogation est relative à la première. Vous avez ceci, je vous l'ai dit l'autre jour, très nettement en physique, en philosophie de la nature. Vous découvrez la phusis comme cause efficiente, principe immanent. Puis vous divisez phusis forme, phusis matière. Puis vous découvrez la fin. Et c'est toujours sous la première interrogation. Au fond, la première interrogation dans une perspective philosophique commande toutes les autres interrogations. Et c'est, je crois, pourquoi Aristote, qui sait très bien que la découverte de l'art, c'est la fin, il le sait très bien, il l'a découvert quand il l'expose. On peut pas, autrement on dirait que c'est l'exposition qu'il fait qui lui a permis de découvrir. Il sait très bien. C'est comme ça que nous faisons, nous cherchons, nous découvrons et puis après nous exposons. À moins que, quelquefois, on est obligé d'exposer sans savoir. Ça peut arriver. Et alors, on découvre en exposant. Ça peut arriver. Le legein, quelquefois, peut précéder le noein. Et quand il précède le noein, il nous fait découvrir le toainai. Ça peut arriver. Ça peut très bien arriver. Mais ce n'est pas tout à fait le style d'Aristote. Ordinairement, Aristote connaît avant d'exposer. Il expose ensuite. Alors, il expose. Il sait très bien qu'on va aboutir au... Mais comme on est en métaphysique, la grande interrogation, c'est le tiesti. Alors, faisons attention. Ne disons pas que cette interrogation du tiesti va commander la nouvelle interrogation, alors il n'y aurait qu'une seule interrogation. Mais cependant, elle reste comme la grande interrogation qui va soutenir la nouvelle induction. Et cette nouvelle induction va impliquer nécessairement, mais elle n'est pas explicitée dans Aristote, c'est très vrai. Ça, il faut le reconnaître. Et je crois que nous devons l'expliciter. Elle n'est pas explicitée dans Aristote pour montrer qu'il y a une nouvelle induction qui est une induction qui est commandée par la perfection de l'être. L'accomplissement de l'être. C'est mis dans, du reste, dans les différents exemples qu'il prend. C'est pour ça, je crois, que c'est le tiesti qui est premier. Exactement comme en vue de quoi commande toute la recherche de l'éthique. Le tiesti de l'être commande toute la recherche de la métaphysique. Quand je découvre l'acte, je découvre plus profondément le tiesti de l'être. Alors, vous voyez, ce serait intéressant à voir. Ça, il faudrait creuser ça. Ça n'a pas été, je crois, creusé. Parce qu'au fond, on n'a pas cherché tellement à bien comprendre ces choses-là. Il faudrait regarder comment le Tiesti aboutit à une première découverte, l'ousia. Et Aristote dit au point de départ que la découverte, l'interrogation du Tiesti du Toon égale celle de l'ousia. Mais en réalité, ce n'est pas tout à fait juste. Puisqu'il y a une nouvelle interrogation du Tiesti par rapport à l'être, qui aboutit à l'acte. Mais c'est très intéressant de voir ça, parce que ça nous montre bien qu'au point de départ, la découverte du Tiesti de l'ousia me permet, ou l'interrogation du Tiesti du Toon doit passer par l'interrogation du Tiesti de l'ousia. Je ne peux pas saisir le Tiesti du Toon, de ce qui est, sans passer par l'interrogation du Tiesti de l'ousia. Et c'est vraiment la première découverte. Mais je pose toujours la même question, qu'est-ce que c'est que l'être ? Je suis dans un domaine spéculatif, hein. Je ne suis pas dans un domaine pratique. Alors c'est en poussant l'interrogation du Tiesti du Toon que je vois qu'en effet, la découverte de l'ousia n'est pas adéquate à l'être. Puisque à côté de l'être, il y a la qualité, il y a la passion, il y a l'action, il y a dynamis. L'ousia n'explique pas la dynamis. Il faut donc pouvoir expliquer la dynamis par rapport à l'être. Alors l'interrogation du Tiesti va être poussée plus loin dans le livre Theta et va m'obliger de donner une nouvelle induction, c'est-à-dire d'aborder l'être d'une autre manière. J'aborde l'être d'une manière tout à fait différente dans le livre Theta que dans le livre Zeta. Il y a deux manières d'aborder l'être. Je l'aborde en regardant comment il y a des états différents dans la même réalité. Et c'est bien la dynamis qui me fait regarder ça. Il y a des états différents dans la même réalité. Et pour mieux comprendre cette diversité des états, je les regarde dans leur réalisation multiple. Et l'interrogation du Tiesti va donc impliquer l'interrogation de « en vue de quoi l'être ?». Mais vous comprenez très bien que « en vue de quoi l'être ?», ça risquerait d'aboutir au bien. Aristote reste au point de vue du Toon. En éthique, il aboutit au bien. C'est vrai, dès que j'interroge « en vue de quoi ?», c'est le bien. Aristote veut dépasser Platon. Platon a une conception du bien qu'Aristote n'accepte pas. Pourquoi ? Parce que la conception du bien chez Platon reste uniquement liée à la contemplation, reste uniquement liée à l'opération de l'homme. Entelekeia. Il veut dépasser cette conception du bien pour saisir le bien non plus seulement par rapport à l'homme, mais le bien en lui-même, pas le bien en soi, mais le bien en lui-même, c'est-à-dire le bien par rapport à l'être. Et c'est sans doute à cause de cela qu'Aristote évite de mettre l'interrogation en vue de quoi. Nous ne sommes plus du tout dans la même perspective. Nous n'avons plus Platon devant nous, de la même manière. Alors on peut changer et expliciter, mais il faudrait sans doute mettre et garder le Tiesti en mettant en vue de quoi à l'intérieur de l'interrogation du Tiesti. Je ne sais pas si je m'explique suffisamment nettement, mais je crois que c'est très important au point de vue méthode, pour saisir la méthode d'Aristote et pour saisir la méthode philosophique. C'est le premier qui commande toutes les autres. Il faut toujours se demander où se situe la première interrogation. Et à partir de la première interrogation, j'ai l'ordre des autres interrogations. Et la première interrogation est capitale. Et c'est très vrai, quand vous regardez l'éthique, vous voyez très très bien que c'est la première interrogation en vue de quoi qui commande toute l'éthique. Et quand vous êtes attentif à la première interrogation du livre Zeta, vous voyez bien que c'est le Tiesti qui commande tout. C'est le Tiesti de l'être. C'est le Tiesti de l'être. Alors, le Tiesti de l'être, d'abord, Tiesti ousia. Et ensuite, au-delà de l'ousia, qu'est-ce que c'est que l'être ? Et alors, à ce moment-là, le qu'est-ce que c'est que l'être va absorber le « en vue de quoi ». Mais ce n'est pas le « en vue de quoi » pris d'une manière pratique, C'est le en vue de quoi pris d'une façon spéculative. Or, le en vue de quoi pris d'une façon spéculative passe par le tiesti. Oui, c'est quelque chose d'assez subtil, mais je crois très important. Parce que ça nous aide à mieux comprendre comment les cheminements philosophiques sont différents en éthique et en métaphysique. Et comment le cheminement de la physique, de l'éthique et de la métaphysique sont différents, ne sont pas les mêmes. Il y a quelque chose de différent que je saisis dans ces trois cheminements. Et alors je ferai la même chose, si vous voulez, pour la poiesis, pour le point de vue poétique ou pour le point de vue politique. Mais le politique est dans la même ligne que l'éthique, mais assume quelque chose de nouveau. Ce n'est plus seulement le point de vue de la finalité, c'est tout le point de vue du conditionnement de l'homme dans la vie commune. Donc vous voyez là, il y a quelque chose d'important à saisir, hein, qui n'est pas commode, qui est difficile à saisir, mais qui est important à saisir. Alors, dans cette petite topique, hein, ceux qui s'intéressent à la question, il faudrait voir comment, parce que le néoplatonisme est toujours très intéressant, alors il faudrait voir comment Plotin, le premier grand néoplatonicien, va digérer l'acte, l'énergeia d'Aristote. C'est peut-être un des points les plus intéressants d'affronter Plotin et Aristote à propos de l'énergeia. C'est vraiment à propos de l'énergeia que vous voyez ça. Eh bien, pour Plotin, l'énergeia n'est plus ce qu'il y a d'ultime. C'est très curieux. Ce qu'il y a d'ultime, c'est le bien en soi. Oui, nous trouvons Platon, c'est évident. C'est l'un en soi. Qu'est-ce qui lie les deux? C'est la dunamis. Je vous l'ai déjà dit. La dunamis. Donc, la dunamis reprend sa dignité de dunamis. Il réhabilite la dunamis pour Platon en s'appuyant sur Platon. Il lui redonne tout son caractère puisque c'est ce qui fait le lien entre le bien en soi et l'un en soi. Ça, c'est capital pour comprendre le néoplatonisme. Je crois qu'on ne comprend rien au néoplatonisme si on ne comprend pas ce passage génial, hein, c'est très très grand, entre le bien en soi et l'un en soi par la dunamis. Et que devient l'énergeia? L'énergeia vient tout de suite après. Elle vient pour unir le bien en soi et le nous. L'énergeia, c'est l'émanation. C'est ce qui explique le passage, le lien entre le bien en soi et le nous. Alors vous le retrouvez successivement, mais c'est le premier moment. Donc vous voyez bien que l'énergeia n'est plus saisi comme un terme. L'énergeia est saisi comme un moyen terme. Et saisi comme quelque chose qui me permet d'expliquer le passage du bien en soi au nous. Le nous, c'est l'énergeia du bien en soi. Le nous, c'est l'icône du bien en soi. Il prend l'énergeia, il prend l'icône. C'est très curieux. Toutes ces expressions-là pour essayer de comprendre comment. Il y a un passage entre les deux, il y a un lien entre les deux. Vous voyez, alors, pour ceux qui s'intéressent à toute la grande théologie des orthodoxes, c'est les énergies divines, l'énergeia. C'est les énergies divines qui jouent un tel rôle important dans toute la théologie des orthodoxes actuelle, c'est ce point de vue qui provient de Plotin. On ne connaît pas Dieu de façon absolue, mais on connaît les énergies divines. Les énergies divines, c'est le rayonnement de Dieu sur moi. C'est ce qui m'attire vers Dieu. Palamos, c'est ça. Toute la théologie de Palamos, c'est les énergeia. Et les énergeia, c'est ce métaxus, cet intermédiaire entre l'esprit et Dieu. Ce n'est pas la vision de Dieu immédiate. C'est les énergeia. Je suis pris par ces énergies. Alors, c'est Dieu et ce n'est pas Dieu. Oui, c'est intéressant de voir comment le point de vue de l'énergeia d'Aristote, qui était saisi comme le terme, comme ce qui donnait la fin, est tout de suite relativisé avec Plotin. Alors, vous pourrez voir après comment les théologiens utilisent l'acte et la puissance, comment saint Thomas utilise la grande métaphysique d'Aristote, comment il l'utilise à sa manière en théologien. Très grave problème, très intéressant puisque c'est un point ultime. Vous pouvez voir ensuite comment, parce que de fait, hein, c'est, quand vous regardez attentivement, vous voyez que l'acte et la puissance, surtout l'énergéia, est très peu gardé. Qu'est-ce qu'il a repris, Leibniz? Leibniz a repris l'énergéia. Et Heidegger reprend l'entelecheia. Mais pas dans le même sens, ni l'un ni l'autre, d'Aristote. L'énergéia de Leibniz n'est pas l'énergéia d'Aristote, et l'entelecheia de Heidegger n'est pas l'entelecheia d'Aristote. Alors, après les fêtes de Noël et de Nouvel An, nous commencerons la métaphysique de l'acte et de la puissance. Je vous souhaite une bonne fête de Noël et de Nouvel An.
Père, moi je vous demande une signature pour deux livres du séminaire.